Je m'appelle Guillaume Blot, j'ai 30 ans. J'ai réfléchi pas mal à ton invitation et à quel voyage j'aurais pu mettre en avant. J'ai pensé d'abord à mon voyage de cet été avec la Blotmobile, qui est le van que je me suis acheté pour parcourir un petit peu la France l'Allemagne, l'Italie. Je vais pas dire l'Europe parce que ça reste que deux pays parmi la totalité du continent. Mais il y a je dirais un voyage qui m'a encore plus marqué. C'était en 2016, en Lituanie. Plus qu'un voyage, je mettrais le mot un vivre. Puisque je suis parti un mois, et c'est là où j'ai envie d'appuyer aujourd'hui en discutant avec toi, sur la notion non pas de simplement se déplacer dans une région, à un endroit, pour y passer quelques jours, quelques semaines, mais je considère qu'à partir du moment où tu restes, je dirais la notion et la barre symbolique d'un mois, tu peux commencer à avoir des habitudes, et donc utiliser le mot vivre.
Bonjour et bienvenue dans Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, un ou une invitée se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Aujourd'hui, je reçois Guillaume, qui nous emmène en Lituanie. Avec lui, on a parlé de centrales nucléaires, de barbe et de projets artistiques.
J'ai bourlingué à travers le monde. Donc en 2016, ça a été l'année où j'ai décidé de faire tous mes voyages en Europe de l'Est, qui est une partie du monde et de l'Europe que je ne connaissais pas du tout. J'ai commencé par un premier trip en Roumanie, à Cluj, voir une amie qui étudiait la médecine. J'ai continué en Macédoine, une terre que je n'avais jamais... J'avais jamais été là, dans ce coin là-bas, et je savais même pas la placer sur une carte, à vrai dire. Mais grâce à Wizz Air, qui est une compagnie low cost, on peut y aller pour pas très cher, et j'ai réussi à amener mes potes d'enfance là-bas pour un week-end. Donc là, voilà, la Macédoine et Skopje, la ville en particulier, je l'ai découverte. Je suis allé à Belgrade aussi pour accompagner un groupe de coureurs qui s'appelle Jolie Foulée pour un week-end de 3 jours où le running était un vaste prétexte pour se retrouver là-bas. Et en plus de ces voyages de un week-end à une semaine, je voyais que dans mon emploi du temps, j'étais freelance, je voyais qu'il y avait la possibilité de partir un mois en entier, fin octobre. Et donc là, j'ai regardé la carte de l'Europe de l'Est et aussi les prix des billets. J'avais juste l'impératif d'être à la fin du mois d'octobre en Israël pour un mariage. Et donc de fin septembre à fin octobre, j'avais ces 4 semaines de libre pour faire un grand voyage. J'ai pas mal hésité entre différents pays, je dirais les classiques, Hongrie, Pologne peut-être un petit peu moins, la Bulgarie aussi qui m'attirait. Et puis je voyais ces pays baltes au nord-est de l'Europe qui étaient petits, qu'on connaissait qu'avec le basket ou quelques percées en éliminatoire d'euro de foot, donc la Lituanie, l'Estonie et l'Estonie. Et j'ai vu qu'il y avait des billets pas très chers pour partir en Lituanie, à Vilnius en particulier grâce à la compagnie low cost que j'ai citée tout à l'heure qui est une merveille pour partir en Europe de l'Est. Et surtout, il y avait aussi des bonnes correspondances pour aller ensuite à Tel Aviv, en Israël, à la fin de mon trip. Donc, je me suis chauffé pour booker la Lituanie, un gros mois et demi avant mon départ. Et à partir de là, j'avais mon billet aller, mon billet retour, mes directions Tel Aviv. Il y avait tout organisé. Et donc, j'ai planifié un vivre là-bas avec l'idée de trouver un endroit où je pouvais vraiment être immergé dans la capitale lituanienne, donc Vilnius, avec objectif premier, trouver une coloc pour déjà pas payer très cher et ensuite pour être avec des locaux et essayer de profiter de leur expérience, de leur connaissance du quotidien là-bas et puis pouvoir avoir peut-être un crew, en tout cas des personnes avec qui traîner les premiers jours et me faciliter mon intégration. Et donc j'ai commencé à checker les sites web de bons plans en fait. J'ai aussi regardé en parallèle s'il n'y avait pas de mes potes qui étaient partis là-bas pour essayer d'avoir des contacts de coloc. Et les différents messages que j'ai postés sur les groupes Facebook ne prenaient pas du tout. Il n'y avait pas vraiment de réponse, pas de bon plan qui se profilait. Je commençais en parallèle à regarder les Airbnb, mais je trouvais ça cher pour passer 30 jours fois peut-être 45 euros par nuit. Donc c'était pas forcément le plan que je recherchais non plus. Un jour, je reçois un message en privé d'une certaine Gedle, un nom donc local, lituanien, mais écrit dans un français parfait, et un message qui était quasiment... trop beau dans le sens où elle me proposait hein, finalement de me loger gratuitement dans un appart à Vilnius pendant un mois. J'y croyais à peine, je craignais un petit peu le fake et un truc, disons un peu louche, mais j'ai
répondu de manière très spontanée en lui disant voilà, j'étais très content de sa proposition, que bah qu'effectivement ça m'intéressait, je voulais savoir plus et combien je préférais quand même demander si fallait que je paye quelque chose. Elle me dit non, pas de souci, tu peux venir, c'est un appartement que je viens d'avoir, mais moi je peux loger chez mes parents, j'ai habité à Lille pendant quelques mois, donc c'est pour ça que je parle plutôt bien français et je serais ravi de voilà de t'aider à t'intégrer à Vilnius parce que tu vas voir que c'est une ville qui est très chouette. On continue de discuter et je commence vraiment à avoir confiance en sa proposition. Donc, pour moi, le côté logement était acté. Et ensuite, tout ce qui était les à côté, je me suis dit que j'allais voir sur place au fur et à mesure de mes journées ce que j'allais faire et peut-être comment j'allais triper à l'intérieur du pays et vivre aussi parce qu'il y avait le côté un petit peu boulot où j'avais des missions qui commençaient à tomber et je me suis dit que ça pouvait totalement se faire depuis Vilnius. Me voilà le 27 septembre 2016 à décoller pour Vilnius et la Lituanie. Il faut savoir que c'est un pays, la Lituanie, où j'ai aucune image en tête. J'ai jamais vraiment regardé sur les Google Images et autres sites aux versions touristiques. J'ai pas vraiment de clichés de monuments, de paysages. Et finalement, je crois que c'est ce que je recherche. Et ce que je recherchais en partant là-bas, c'était le côté, c'est ne pas cocher finalement des cases à côté de photos que j'aurais pu déjà voir sur Google Images et cette partie, disons cette partie-là de tourisme, de checking, t'es allé dans tel ou tel endroit, elle m'attire pas du tout. Je voulais vraiment partir à l'aventure et faire mes propres images. C'est donc avec une page blanche que je suis parti là-bas et quand j'ai atterri, j'ai bien ouvert les yeux. Donc c'était à Vilnius, à peine 3 heures de vol, c'est assez rapide. Il faisait assez frais parce qu'on est en octobre et on est plus au nord que la France, on est limitrophe avec la Biélorussie et la Russie notamment. Donc je m'étais bien couvert pour atterrir là-bas. Et premier rendez-vous, c'était donc avec Guy Dreux, qui m'invite à la rejoindre à son travail pour récupérer les clés de son appartement. Donc je me rends en bus directement à son boulot. Première rencontre, donc c'est voilà l'impression de déjà la connaître sans l'avoir déjà vue. Donc c'est assez particulier, mais je crois que c'est comme beaucoup de rencontres aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, on discute, on est assez à l'aise rapidement. Et donc me voilà parti en bus avec les clés, à la recherche d'un appartement, et ne parlant pas du tout la langue locale. Donc c'était une première aventure dans l'aventure de rejoindre le spot où j'allais passer 4 semaines. Et effectivement, la clé rentre bien dans la serrure, c'est pas un fake, donc je me retrouve bien dans un appartement pour moi pour quelques semaines. Donc c'est la première... Première envie, c'est de se caler un petit peu, de poser ses affaires et de se sentir à l'aise. Et puis rapidement de ressortir pour faire quelques courses. Et première expérience d'un quotidien, c'est le supermarché. Et puis les premières particularités donc locales où, par exemple, je me souviens avoir vu des racines, des morceaux de gingembre qui étaient emballés dans du plastique. Beaucoup de plasticage là-bas. Donc c'était une première approche un peu chelou de voir un autre conditionnement. De voir des autres noms de marques, des produits, des confitures locales, des bières, pas mal de fruits et légumes quand même que j'avais déjà évidemment connu, mais voir un peu ce qu'il y avait là-bas. Donc voilà, faire mes premières dépenses et retourner à la maison, puis à faire un premier repas. Donc vraiment voilà, pas manger dans le resto, mais en tout cas essayer de faire la cuisine, la popote directos à la maison et pour me sentir à l'aise. Pour parler du quotidien, ce que je recherchais là-bas, ça a été directement de se mettre dans le bain, donc de faire ses lessives notamment, et c'est aussi la première, l'autre anecdote un peu funk. Je lance la machine et je me cale dans le salon et au bout d'un quart d'heure, en fait, je me rends compte ça tape à la porte. Je me lève pour aller traverser le couloir où il y avait notamment la salle de bain et en fait, j'ai les pieds totalement trempés et je me rends compte que ça vient de la salle de bain et l'urgence à gérer, c'est la personne qui tape. Et j'ouvre et je tombe sur une dame d'une cinquantaine d'années, blonde, qui me regarde avec des gros yeux en regardant le sol et je me rends vite compte avec le langage international des baragouinements qu'en fait elle bosse en dessous et que l'eau qu'il y a dans le couloir, il est en train de faire ploc ploc dans son magasin de vêtements juste en dessous. Donc là, faut gérer l'urgence, faut gérer l'inconnu de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les minutes d'après. On va se dire aussi que la confiance que ma pote m'avait accordée, finalement, elle était ruinée rapido. Donc je me dépêche de couper l'eau, de nettoyer ce que je peux nettoyer, puis de descendre m'excuser en bas pour voir. Et effectivement, ça avait totalement auréolé son plafond, qui était un truc un peu à l'arrache, et ça commençait à goûter. Elle était en train de nettoyer elle-même. Voilà, début un peu tonitruant, mais ça s'est bien passé ensuite, et j'ai pas commis d'autres impairs, donc en tout cas, mes vêtements étaient propres. Et c'était, j'ai pas envie de dire le principal. Désolé, Guidre. Et pour la suite, eh bien, c'était vraiment de... Je faisais de l'escalade à l'époque, donc j'en fais toujours un petit peu, mais là, c'était un peu le moment fort des débuts, donc je me suis chauffé à trouver une salle, à me rendre dans une salle d'escalade à Vilnius, d'en trouver une et de faire une petite session. Donc c'était de continuer mes activités, continuer mes petits rituels du matin, à faire un peu de réveil musculaire, à prendre mon petit déjeuner, à marcher, puis à... Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est bosser depuis des cafés, donc de trouver un spot pour me caler et avec une connexion correcte, et puis taffé. Et c'est comme ça que j'ai trouvé deux, trois petits cafés qui étaient très chouettes. Vilnius, c'est une ville qui se développe pas mal, et du coup, on pouvait trouver des coffee shops, notamment, qui étaient là à faire du bon café avec toutes les méthodes d'extraction qu'on peut trouver, notamment à Paris. Donc, j'avais trouvé mon bureau, mes bureaux, on va dire. Je me suis aussi rendu à l'ambassade de France où on m'avait donné un contact. Là-bas, ce qui était assez drôle, c'est que j'ai rencontré un mec dont ses grands-parents habitaient la même rue que mes grands-parents, à Mauléon, dans les Deux-Sèvres. Donc, petit monde, grande connexion. Il m'a invité à taper un foot avec les gens de l'ambassade et la petite communauté française qui gravitait à Vilnius. Donc, voilà, c'était... J'ai cherché ce quotidien avec un mélange de sport, de boulot. Et puis, il y avait ce petit côté en plus que je cherchais l'aventure, en plus d'un quotidien, et donc c'était de rencontrer. Pour moi, la nature passe pas mal par rencontrer des personnes. Au-delà des contacts qu'on m'avait recommandés, j'ai notamment vu qu'il y avait une journaliste qui était assez active sur Twitter, sur les sujets liés à la Lituanie, donc je lui ai envoyé un petit message privé pour savoir s'il était dispo pour échanger pour un café, et puis on s'est vu dans un café du centre-ville, et ça a été un bel échange, un premier échange, disons un peu plus poussé d'un point de vue politique, actu, culture du coin. Elle avait en charge les plusieurs pays baltes, puisque en tant que correspondante, la Lituanie en toute seule, ça intéresse pas assez les rédactions, donc elle se déplaçait sur tous les sujets qui couvraient l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie. Et l'anecdote de ce jour-là, une nouvelle anecdote, le déjeuner se termine, moi j'ai envie d'aller pisser, je vais aux chiottes et les shots des garçons étaient occupés, passaient le défi, et là je vois une jolie blonde qui me laisse, qui arrive pour aller aux toilettes et qui me laisse finalement aller dans les toilettes des filles. Et la vie, je crois qu'il y a pas mal de... ça marche par flash, et autant sur des idées que des rencontres, et là j'ai un flash pour elle. Je sors des toilettes et je l'observe d'un coin de l'œil, elle était en train de bosser de son côté, moi aussi, et je vois qu'elle discutait pas mal avec le barman. Là, j'ai clairement pas posé mes couilles, pour ainsi dire, et je suis pas allé la voir. Avec ce petit regret en partant, mais je lui ai quand même fait un signe et qu'elle a répondu. Et c'était un peu le regret de la journée, de pas être allé à cette aventure-là, en tout cas. De pas m'être permis cette aventure. Le lendemain, je décide de retourner dans le bar pour parler au barman et avoir un peu plus d'indices sur qui était cette fille. Sur le chemin allant direction le bar où je l'avais rencontrée, je la croise. Et elle se rappelle de moi, je me rappelle évidemment d'elle. On discute quelques mots en anglais et je lui demande comment la retrouver par la suite parce qu'elle était pressée. Elle s'appelle Aruna Daukantaita, c'est pas facile à écrire sur Facebook, mais elle se charge de le faire pour moi. Et à partir de là, on est connectés. Mais le plus drôle, c'est qu'on va pas se voir du tout pendant le reste du séjour là-bas. Elle m'écrit la veille de mon départ. Elle était assez occupée sur un tournage de film, mais la veille de son départ, elle m'écrit tard. Elle me demande où je suis, et c'est son anniversaire, elle aimerait me voir. Et c'est des petits indices quand on est attiré par quelqu'un. Je pense qu'on est un peu à l'affût des signes, et écrire un message tard le soir en demandant qu'on souhaite voir la personne, ça balance dans le côté positif pour la suite. Donc je propose de la revoir juste avant de prendre mon avion, elle est pas dispo. Et s'ensuit finalement une relation épistolaire de quelques mois entre Paris et Vilnius. Jusqu'à ce qu'elle me dise qu'elle va venir à Paris. Et du coup, cette fille, on a vécu une petite aventure de quelques mois. Quand elle est venue à Paris, je l'ai rejoint à Brighton, après chez sa sœur, et c'était une rencontre marquante, et elle fait partie, je crois, des trois filles dont je suis tombé amoureux dans ma vie. Donc la Lituanie m'a marqué assez profondément par elle. Autre rencontre marquante, Vivi, qui est designer, architecte, et qui m'a présenté pas mal de, disons, de créatifs du coin. Donc, c'était, voilà, une belle immersion grâce à lui, pour faire quelques petites teufs du cru, et je le remercie de m'avoir, voilà, intégré, et d'avoir fait rencontrer là quelques personnes créatives et artistiques à Vilnius. J'ai rencontré aussi la première Biélorusse de ma vie qui s'appelle Nina, un des premiers jours dans un bar où je l'ai abordée pour savoir ce qu'elle faisait. Elle était seule à sa table, et moi aussi. J'ai fait une photo d'elle, et c'était un des premiers portraits que j'ai réalisé sur place. Et des portraits, j'en ai fait pas mal. C'était un de mes buts en fait de communiquer sur, de montrer la Lituanie à travers à la fois des séries photos. Je suis assez série, je fonctionne pas mal en série dans mes projets artistiques. Série photo en particulier, j'avais une série que j'avais débutée qui s'appelait Portrait, avec un petit numéro à côté, et elle faisait partie des premiers portraits spéciaux Lituanie que je diffusais. Et il y avait aussi une série que j'avais démarrée qui s'appelait Day Lituanie, avec un jeu de mots sur daily, avec l'idée donc de faire des photos du quotidien. Donc je parlais par exemple des supermarchés, du gingembre emballé, c'était de montrer un petit peu aux personnes qui me suivaient, comme un documentariste, comme un journaliste, de documenter un peu un quotidien à Vilnius et en Lituanie. Donc chaque jour j'essayais de poster une photo avec un petit texte qui montrait la vie locale. C'était un projet qui me tenait à cœur, et j'ai suivi tout au long. Il y avait un autre projet qui me tenait beaucoup à cœur, c'était à une époque où je découvrais Chris Marker et Sans Soleil, son film emblématique, je dirais, avec un mélange créatif de texte, de photos, parti au Japon pour sa part. Et moi, l'idée, c'était de prendre un maximum de photos et de prendre des notes et de faire un montage ensuite d'un quotidien en Lituanie, avec un objet qui serait différent de la photo pure et dure, mais poétiser un petit peu le quotidien. Donc j'ai toute la matière, mais ça fait 3 ans que j'ai pas déroché. Il y a des projets aussi sportifs que j'ai entamés là-bas, sportifs et créatifs. J'ai créé Buvette, qui a commencé en France par un tour de France des buvettes de stades de foot. Donc avec l'idée de chroniquer ces petits stands où on mange des merguez frites avec max de ketchup mayo. Et je me suis dit que j'allais voir ce qu'on mangeait aussi autour des stades en Lituanie. Donc je me suis fait accréditer pour un match de championnat de Lituanie, de la D1 locale, avec l'idée à la fois de prendre en photo les buvettes, mais aussi de faire un sujet sur les supporters. Et du coup, je me suis retrouvé avec les ultras du club local à faire des photos, des portraits de gens dans la tribune, et à m'en trouver vraiment en immersion, mais aussi en bord terrain, pour un peu prendre les à côté de la rencontre. Donc ça a été, voilà, ma première expérience d'accréditation, le championnat lituanien de football. Autre immersion sportive locale, ça a été de suivre un match de l'équipe de foot nationale de Lituanie qui jouait sa qualification pour la Coupe du Monde 2018. Je me souviens, voilà, d'avoir shooté comme bon me semblait autour du terrain, et il y avait un petit côté très laxiste de la part de la sécu, donc c'était du pain béni pour moi pour me balader, essayer de prendre des photos le plus près possible des joueurs et tout ça, et c'était une belle expérience. Par rapport au sport aussi, je me suis marré. À l'époque, j'écrivais pas mal pour Jolie Foulée, donc un site de course à pied qui a été créé par des potes, et je me suis dit que j'allais créer, comme j'avais fait pour Belgrade, j'avais créé le guide du routier à Belgrade. Là, je me suis dit que j'allais faire une version, une déclinaison lituanienne. J'ai écrit le guide du routier version Vilnius, avec l'idée de faire un petit tracé dans la ville pour les personnes qui seraient éventuellement chaudes d'aller là-bas, si jamais ils voulaient escaler un run. Je pense que pas mal de personnes ont vu le travail de cette américaine qui s'amuse à dessiner des beats sur son application de running en empruntant les rues. Donc moi, je me suis à mon tour chauffé pour essayer de faire un tracé qui a finalement dessiné une grosse teuf sur la ville de Vilnius. Et c'est, quand on lit l'article, c'est assez drôle, parce que finalement, je montre à la fin le tracé. Il y a un truc très sérieux que j'essaie de mettre en place au début, en disant, voilà, regardez à gauche, droite. Je prenais des photos avec mon appareil photo en parallèle, et à la fin, je présente le tracé, et voilà, c'est un peu la petite surprise quand on déroule l'article, et j'en suis assez fier. L'expérience la plus marquante hors sport, c'était de visiter une centrale nucléaire. J'ai vu qu'il y avait une centrale en cours de démantèlement dans le pays, et l'avantage, ce que j'aime dans la photo, c'est que ça permet d'accéder à des endroits où il serait pas forcément aussi facile d'accéder sans une excuse. Et en l'occurrence, j'ai vu qu'il y avait cette centrale, la centrale de Visaginas, qui était en cours de démantèlement, donc j'ai demandé une accréditation en faisant passer un pote comme mon assistant pour la visiter. Donc c'était, on est partis tous les deux avec la voiture, et à 2 heures de route, et on a visité cette centrale, moi faisant plein de photos, et en essayant de montrer la beauté d'une centrale en cours de démantèlement, même si c'est franchement dégueulasse pour la planète. Et j'ai une série que j'ai toujours pas diffusée, et la directrice com de là-bas n'a toujours pas relancé, donc pour l'instant je la garde sous le coude parce que ça reste assez intemporel et ils vont mettre du temps à la démanteler. Donc pour moi, la Lituanie et Vilnius en particulier ce mois, je me suis vraiment efforcé, même c'est pas un effort, mais en tout cas d'essayer de vivre un quotidien là-bas, en continuant mes petits rituels, les endroits que j'aime bien côtoyer au jour le jour. Je me suis pas arrêté d'aller voir les gens dans la rue pour leur parler, et j'ai essayé aussi à travers l'appareil photo de montrer ce qui se passe autour de moi. Donc ça a été finalement déplacer mon quotidien de Paris dans une autre ville pendant un mois, et j'ai adoré l'expérience.
Merci pour ton récit. Pourquoi t'as voulu raconter ce voyage en particulier, si t'appelles ça un voyage ou un vivant?
J'ai choisi la Lituanie parce que j'avais vraiment, comme je disais, aucune image, et c'était la première fois que je partais un mois dans un pays. Il y avait ce double combo d'exotisme total et de longue durée qui m'attirait, et je pense que ça matchait bien pour, en tout cas, me créer de chouettes expériences sur place, du quotidien, et pour ensuite le raconter.
En parlant d'exotisme, à quel point c'est différent de vivre en Lituanie ou à Vilnius par rapport à la France ou Paris?
Disons que Vilnius, c'est une capitale. Ça a beau être une capitale, ça reste in fine une petite ville si on la compare aux grandes capitales européennes. C'est une ville qui est en mutation, je dirais, dans le sens où elle faisait partie. La présence russe et de l'URSS était quand même assez forte jusqu'au début des années 90. On voit avec des symboles forts comme la tour télé, où il y avait eu toute une histoire de siège de la part des chars russes, et les Lituaniens qui étaient descendus, il y a eu quelques morts quand même. Donc la tour fait partie du symbole de l'indépendance in fine des Lituaniens. On la voit quasiment tout le temps depuis le centre de Vilnius. Donc c'est une ville qui est en transition post-soviétique, qui regarde, je dirais, un peu plus maintenant vers l'ouest. Je parlais l'exemple des coffee shops, mais c'est assez parlant le fait d'avoir des nouveaux bars, disons un peu tendance, on boit du café sourcé de spécialité. C'est, je dirais, un signe d'occidentalisation, même s'il faut pas être tout à fait nombriliste. Après, il y a des cafés, la jeunesse, elle sort en teuf, il y a des boîtes de nuit, de tout type de musique, il y a des restos où on peut manger pour pas très cher. La vie sur place est assez honnête d'un point de vue dépenses, donc niveau de vie. Pour moi, c'était, disons, royal, parce que j'avais des missions en freelance à côté, ça me permettait de vivre correctement. Je dirais que c'est une ville en transition qui tend avec un peu plus vers l'ouest maintenant, et avec des jeunes qui aspirent, pour ceux qui sont restés, parce qu'en fait, il faut savoir que la plupart, je ne sais plus le pourcentage, mais c'est énorme le nombre de personnes qui émigrent, et notamment vers l'Angleterre. Et donc, il y a toute une jeunesse qui est partie, mais celle qui est restée, en tout cas, elle a de quoi s'amuser sur place, et avec... pas mal d'activités de loisirs possibles.
Tu mentionnais justement dans ta réponse la Russie et la récente indépendance, en tout cas à l'échelle de l'histoire, une vingtaine d'années, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a un regain de tension avec des russophones qui pourraient être restés sur place, ou avec la Russie de Poutine telle qu'on la connaît? Est-ce que tu as pu toucher ça du doigt, notamment quand tu as vu la journaliste, par exemple?
Yes, en fait, en 2016 et fin 2016, il y a eu une affaire de déplacement de chars russes aux frontières. Et ça faisait pas mal baliser les Lituaniens, qui voyaient ça comme une première attaque potentielle de Poutine. Il y avait la Crimée, l'Ukraine qui s'était passée peu de temps auparavant. Donc c'est toujours dans les têtes, notamment des plus anciens, que la Lituanie peut très bien faire face à une attaque russe, surtout qu'ils partagent une frontière au niveau de Kaliningrad, au nord du pays. Donc j'en ai pas mal discuté quand j'ai vu la journaliste. Et effectivement, il y a toujours des tensions avec les Russes, et ça reste quand même assez marqué dans les esprits.
Pour revenir un peu plus au voyage, toi, avant chaque départ en voyage, est-ce que tu as un rituel, quelque chose que tu fais toujours dans le même ordre avant de partir, une action spécifique?
Ouais, c'est mettre un post Facebook en demandant si des gens connaissent le pays où on est pas sur place. Parce que je considère que avoir un premier échange en amont, et grâce à... aux réseaux sociaux notamment, ça facilite les connexions, et de pouvoir discuter pour ne serait-ce que trouver un bon plan appart ou avoir quelques conseils sur tel ou tel quartier à visiter, à voir, s'il n'y a pas une teuf ou quelque chose d'assez marquant une semaine auparavant, avant d'acheter le billet et tout, c'est avec les locaux que je peux avoir l'info, et ça facilite la chose, plutôt que de me rendre sur des sites obscurs. Le rituel que j'ai, c'est en tout cas voilà de communiquer sur mon départ proche dans le pays, et demander à des personnes s'ils n'ont pas des potes sur place pour la connexion.
Et une fois que la première prise de contact est effectuée, quelle place tu laisses à l'improvisation ?
Si je suis quelqu'un d'assez organisé, qui note pas mal les choses de sa semaine à venir sur son agenda, paradoxalement, je laisse pas mal de place à l'impro. En fait, les choses que je note, c'est juste pour me laisser la tête totalement libre pour le moment, et puis aussi pas oublier des trucs qui m'importent, des rendez-vous avec des personnes notamment. L'impro, donc, elle est majeure dans la partie voyage, pour moi en tout cas. Comme quand je visitais une ville, j'aime bien m'y perdre, en fait, avoir peut-être une direction, et après me laisser porter par les rues et errer, et ça me permet finalement d'arpenter des endroits que j'aurais pas forcément arpenté si jamais j'avais checké ma carte constamment et je me serais rendu dans telle ou telle zone déjà faite. Donc j'aime bien, je dirais, l'improvisation et le côté ne pas tout avoir décrit, avoir des grandes lignes de direction, et puis après me laisser porter par le présent et par les opportunités par les flashs en fait que j'ai de rencontres, une histoire qui est assez drôle d'ailleurs dans un bar à Vilnius où c'était un des premiers jours, et je regarde sur le mur de ce bar, il y avait un article de presse avec un mec qui avait une barbe immense, et je regarde à travers les lignes, et je comprends qu'il a remporté un prix Guinness, je sais plus comment tu dis, les World Guinness, les records mondiaux en fait, parfois un peu stupides. Et lui, il avait la barbe la plus forte du monde en fait. Il avait réussi à soulever une soixantaine de kilos uniquement avec sa barbe. Et je note son nom sur Google, et ça ressort pas trop, parce que c'était quand même une dizaine d'années ce record. Et j'en parle à Gedrum, ma pote qui m'avait filé son appart pour le mois, et elle arrive à retrouver trace de lui et notamment un mail. Et du coup, je lui dis, écoute, j'adorerais faire un portrait de ce mec. Et je me prépare mon mail et je demande à Gidola de traduire en lituanien pour lui envoyer. Et Antanas Kontrimas, qui est son nom, va me répondre. En tout cas, répond à Gidola, et il me dit qu'il serait ravi de me rencontrer, et qu'aujourd'hui, il est en charge d'un parc national dans le nord du pays, et qu'il serait ravi de me montrer sa forêt. Il me parle plutôt de sa forêt pour me faire visiter son parc, et accessoirement, il accepte de parler de son record qui date d'une dizaine d'années. C'est quelque chose que j'avais pas du tout vu en amont, pas du tout anticipé avant mon voyage. C'était super spontané de voir cette annonce d'un vieux papier journal sur un mur d'un bar de Vilnius que j'avais pas du tout checké non plus particulièrement, et je me suis retrouvé là-bas à le rencontrer, à faire des photos de lui pendant toute une après-midi, et jusqu'à même me faire recevoir les papiers des citoyens d'honneur de la région des MIT. Donc un truc totalement pété et génial pour moi. Donc l'impro, là, c'est un bel exemple de côté de me laisser porter par ce que je vois autour de moi, et ça a été une super expérience.
Ouais, ton récit, il est un peu émaillé de rencontres, hein, tu le dis toi-même, tu considères tes rencontres comme des aventures. Est-ce que tu considères ces rencontres comme éphémères, ou est-ce que tu continues de les faire vivre une fois que tu es de retour au pays ?
En fait, je considère pas des rencontres, en tout cas les rencontres d'un voyage, comme particulières. C'est une rencontre. Et après, en fonction du feeling que j'ai avec la personne, soit on continue de se voir, d'échanger, soit finalement on se rend compte qu'on n'a pas tant que ça d'énergie à échanger, et du coup ça s'arrête là, et Facebook reste notre seul lien. J'ai eu des chouettes rencontres là-bas, je parlais d'Aruna, je suis rencontré Jivile par Tinder, où les premiers jours il y avait l'excitation pourquoi pas de rencontrer des filles sur place, et Jivile, qui est une danseuse locale, j'ai trouvé magnifique sur photo, elle était tout autant en vrai, et ça a matché direct, on s'est vu rapidement et on a passé quelques semaines ensemble. Après, elle est venue à Paris, on n'avait pas forcément continué l'aventure, on s'était dit au revoir, on était assez lucide par rapport à notre relation sur place, mais elle est venue danser à Paris avec une pote, et du coup je l'ai hébergée, et on était ravis de se revoir après quelques mois. Quelques histoires de rencontres plus ou moins sentimentales. Vita Ossas, qui a été une rencontre marquante aussi. Je l'ai pas revu depuis, mais on échange de temps à autre sur un peu ce qu'on devient, et ça te fait toujours plaisir de voir une petite notification de sa part quand il m'écrit. Donc voilà, les rencontres pour moi, elles ont rien de particulier. Je dirais un voyage, c'est une continuité de moments où à un temps donné, je me suis retrouvé dans une zone et dans une région, et une autre personne s'est retrouvée à un moment donné à un mètre de moi, et là j'aurais été peut-être plus présent que d'habitude, et j'aurais eu l'énergie pour aller lui parler, la voir, et ensuite l'énergie se fait ou se fait pas, et en fonction on continue pas de savoir.
T'as l'air d'avoir tiré le portrait de quand même beaucoup de personnes. En plus de la photo, de quelle manière tu documentes tes voyages?
Mais en plus de la photo, moi j'aime beaucoup écrire, et en plus des photos que j'ai pu prendre là-bas, il y avait toujours un petit texte quasiment. Un petit texte qui décrivait le quotidien, qui décrivait un peu la personne, comment je l'avais rencontrée, qui elle était en quelques mots, à croquer une anecdote, un détail qui me vient par rapport à notre rencontre. Donc pour moi, les mots, c'est un bon complément à la photo. Ça permet d'approfondir si on veut, parce qu'on laisse le choix finalement à la personne qui regarde la photo, si elle veut rentrer davantage dans le portrait ou le paysage, ou l'objet, et du coup je complète très souvent mes photos de petits textes. Et j'ai également un zoom, un enregistreur sonore. Je me suis formé à l'enregistrement avec l'optique de faire des diapos mêlant potentiellement des photos et donc du son, avec soit des sons d'ambiance, soit des mots enregistrés dessus, mais je l'ai pas trop utilisé là-bas, je sais pas, il y a pas eu cette vibe pour créer l'objet sonore, mais je m'interdis pas en tout cas dans mes expériences d'utiliser le son.
Mis à part ton appareil photo, qu'est-ce qu'on va toujours trouver dans ton sac quand tu pars?
En plus de mon appareil, j'aime bien porter des objets, des choses à porter qui me donnent une énergie au quotidien, et notamment les bijoux. Et j'essaye aujourd'hui, dans mes voyages, d'en ramener finalement, dès que j'ai une connexion avec, je sais pas, une bague que je rencontre dans un magasin, dans une fripe, dans une brocante ou une personne. Surtout, c'est encore mieux quand une personne, quand je lui dis que j'aime beaucoup tel ou tel bijou qui est là, même à l'oreille. Ça m'est arrivé en France récemment où j'avais une fille qui avait des super créoles, et je lui suis dit, écoute, j'adore tes créoles, j'aimerais beaucoup en porter aussi, mais il faut que ce soit un cadeau. Et spontanément, une demi-heure après, elle me tendait son bijou. Donc le voyage peut se faire aussi. Et globalement, comme je diffère pas trop mes voyages de ma vie, je pense besoin d'avoir des petits gris-gris, et les bijoux en font partie. Le côté force que peuvent me donner une boucle d'oreille, une bague que je ramène d'expériences qui sont marquantes, ça me permet d'avoir cette béquille au quotidien.
Pour se parler du retour maintenant, est-ce que tu es atteint de ce que j'appelle le blues post-voyage ou post-retour? Et si c'est le cas, de quelle manière tu le souhaites?
Pas du tout, non, finalement c'est l'inverse, je dirais, où quand je reviens de trip, j'ai une énergie encore plus forte pour notamment Paris. Ça me l'a fait avec la Lituanie, je suis reparti après une semaine en Israël, mais quand je suis revenu de mon mois et demi, j'étais encore plus content de voir mes potes, et il y avait cette fraîcheur qui ce renouvellement en fait de du quotidien qui s'est recréé à Paris, et j'étais ravi d'avoir en plus des histoires à raconter à mes amis, et les convaincre de regarder les pays baltes aussi dans leur future destination. Donc j'ai pas vraiment le spleen, j'ai pas vraiment de tristesse, et je fais souvent la métaphore d'un le voyage, c'est aussi un tableau qu'on peint, et à un moment donné on a l'impression d'avoir fini, on pourrait le reprendre, on pourrait le continuer, et le voyage pourrait se prolonger comme le tableau pourrait devenir plus complet, plus dense, mais à un moment donné on se considère que le tableau il est fini, et on est content de le montrer et d'en parler à ses potes. Et là c'est un peu pareil avec le voyage, de se dire que c'était un mois, c'était charmé, et là ça me plaît de revenir à Paris.
Pour se parler justement de tes futurs voyages, c'est quoi tes projets?
Le prochain voyage que j'aimerais faire, c'est en boulangerie. Ça pourrait être le nom d'un pays comme la Bordurie de Tintin, mais en fait j'ai envie d'apprendre à faire du pain aujourd'hui, parce que j'adore le pain et les venaiseries comme le pain au chocolat, et ça me ferait kiffer d'apprendre à mon tour à faire ce pain. Et je me dis que avec le futur moi qui m'attend cet été avec mon van, la boîte mobile, je pense que je pourrais faire un petit tour des différentes boulangeries de France qui m'inspirent. J'ai une pote notamment qui est du côté d'Aubagne et qui est en train de faire son apprentissage chez un boulanger qui s'appelle Farinoman, et qui a créé un panifeste Je trouve ça dingue. Il a l'air d'être super engagé et ça me ferait kiffer d'aller le voir et de passer quelques jours à apprendre à faire mon pain avec lui, à faire des photos pour marquer l'expérience et raconter cette rencontre avec lui. Donc voilà, prochain trip en boulangerie.
On arrive à la fin de cet entretien. Donc est-ce que tu as une anecdote, un proverbe ou une reco, c'est à toi.
Grave, c'est que si jamais vous allez en Lituanie, goûtez absolument au kepta duona. Kepta duona, c'est du pain frit avec de l'ail qui a été frotté dessus, qu'on trempe dans la mayo, et c'est incroyable. C'est un plat de buvette. Les gens là-bas mangent ça avant les matchs, pendant et après. Et c'est une merveille. Donc, si vous voyez sur une carte kepta duona, notez-le. Mangez-le de ma part.
Merci beaucoup.
Merci Marco.
C'était Bourlingué, le podcast qui donne la parole à ceux qui voyagent. Merci pour votre écoute et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en me donnant des étoiles sur iTunes ou en laissant un gentil commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner via votre application d'écoute préférée. Enfin, vous pouvez nous suivre via Instagram, bourlingué.podcast. Ah, et une dernière chose, la musique que vous entendez là s'appelle « J'ai bourlingué » et elle a été composée par Serge Raphaël. Merci à lui.
C'est vrai que j'ai cherché ailleurs une partie de moi, mon bonheur. J'ai bourlingué à l'envers.